Vous êtes sur RTL.
13h, 14h.
Focus dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
Bienvenue dans Focus Dimanche. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque week-end. Pendant une heure, on va revenir sur l'actualité de votre semaine avec les personnalités qui l'ont marqué.
Focus Dimanche.
Mohamed Bouafsi.
Avant de démarrer l'émission, je m'étais engagé à vous donner de leurs nouvelles. Focus Dimanche fait bouger les choses. Vous aviez été bouleversé par l'interview de Lydie Monturu. Son fils avait trouvé la mort à trottinette. Et bien après notre entretien sur RTL, le ministre des Transports Clément Beaune l'a contacté. Le gouvernement a mis en place 7 règles à trottinette et envisage de rendre obligatoire le casque. Autre moment fort de l'émission, le petit Maxime vous avait touché par son courage. Il est atteint de la mucoviscidose et la pénurie de médicaments le met en danger. Après son passage sur RTL, le ministre de la Santé va recevoir Maxime le 24 avril à Paris pour l'aider dans ses soins. On est fiers dans Focus Dimanche de faire avancer les choses.
Focus Dimanche,
Mohamed Bouafsi.
Au menu de Focus Dimanche, des maires en France démissionnent. Ils se sont fait agresser, ne se sentent plus utiles. L'un d'entre eux est mon invité. Elles ont plus de 60 ans, on les appelle les mamies fouteuses. Elles ont disputé la Coupe du Monde des mamies. Elles sont avec moi en studio. Témoignage exceptionnel dans Focus Dimanche. Deux surveillants de prison racontent leur quotidien. Titouan est autiste, il a 22 ans, il a gravi des sommets au Népal et prépare l'ascension du Mont Blanc. Il est mon invité avec sa maman. Yann et Loïc sont papa de la petite Rose. Ils ont retrouvé des inscriptions homophobes et des menaces sur leur porte. Ils se confient dans Focus Dimanche.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus Dimanche.
Focus Dimanche vous emmène aujourd'hui dans l'univers du monde carcéral. Les agressions font partie du quotidien des surveillants de prison. Au centre de détention de Montmédy dans la Meuse, les surveillants sont épuisés. Ils craignent que la situation ne s'aggrave. Voitures brûlées, insultes et agressions physiques. Deux surveillants de la prison sont mes invités dans Focus Dimanche. Pour préserver leur anonymat, nous les appellerons Lucas et Nathalie. Bonjour Lucas.
Bonjour.
Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Nathalie, la violence dans votre centre de détention, elle est de plus en plus présente, de plus en plus quotidienne et de plus en plus douloureuse.
Oui, c'est ça. Là, depuis quelques temps, c'est de plus en plus important et de plus en plus régulier.
Lucas, vous avez vécu une agression, c'était il y a quasiment deux semaines, un lundi soir autour de 19h. Racontez-nous.
On allait pour donner le repas avec un collègue qui était venu en renfort parce que c'était déjà chaud dans l'étage. Et mon collègue, en ouvrant la porte de la cellule d'un détenu, celui-ci empoigne mon collègue et lui met un coup de poing à la figure. Donc du coup, moi j'essaye de maîtriser la personne détenue et puis en faisant ça, j'ai pris un coup à la tête et puis je suis tombé en arrière avec la personne détenue. Et puis après ça, je ne saurais plus trop vous dire ce qui s'est passé. Quand je suis revenu à peu près à moi, d'autres collègues étaient venus en renfort pour maîtriser l'individu et puis... Et bon, après, écarté de l'incident.
Quelle est la raison, Lucas? Il voulait en découdre avec vous? Est-ce qu'il avait des antécédents, ce détenu? Pourquoi on en vient à taper un surveillant de prison?
La raison, pour moi, elle est complètement inconnue. Alors, je ne saurais pas vous dire pourquoi.
Vous avez été aux urgences, et là, on vous diagnostique un traumatisme crânien?
Oui.
Et on vous donne un arrêt maladie. Ça fait combien de temps que vous êtes en arrêt maladie? Ça va durer encore combien de temps, Lucas?
Là, ça fait depuis le 3 avril. Je dois encore passer un scanner demain. Donc, je ne sais pas combien de temps que ça va durer.
Vous êtes prêt à retourner au centre de détention? Vous êtes prêt à retourner travailler en prison?
Le problème, c'est que vu que j'habite assez loin du centre de détention, que je fais pas mal de routes, ça devient vraiment lassant de faire de la route, arriver, et au final que tout se passe mal et que rien n'est fait pour, en fait. Rien n'est fait pour que ça aille dans le bon sens. Donc ça devient vraiment lassant.
Vous avez porté plainte?
Je n'ai pas encore porté plainte.
Vous allez le faire?
Oui, je vais le faire. Oui.
Vous, Nathalie, vous avez porté plainte à la suite d'une agression en avril 2022. Racontez-nous ce qui s'est passé en prison.
Moi, c'était au mouvement des promenades. L'agression, à la base, elle n'est pas dirigée sur moi directement. C'est deux personnes détenues qui en viennent aux mains. L'un va tomber directement. Donc je pense qu'il y a une perte de connaissance de quelques secondes. Sachant que l'autre se défoule dessus, je veux les séparer parce qu'à ce moment-là, je suis seule à l'étage. Et en les séparant, je me prends un premier coup au niveau de l'abdomen qui me fait reculer. À ce moment-là, j'ai un deuxième collègue qui arrive, qui lui va se prendre un fort coup au niveau du visage, au niveau de la pommette. Des détenus vont essayer de les séparer également, et après c'est d'autres collègues qui vont venir en renfort. Quand on l'a maîtrisé, j'ai été projetée contre une porte de cellule, donc j'ai eu des lésions au niveau du dos. Et après on a finalement réussi à le maîtriser au bout de quelques minutes, mais ça paraît long.
Ces agressions que vous... voyez en prison, elles sont de plus en plus violentes. Vous en avez été victime, Nathalie?
Oui, c'est de plus en plus. Je sais que moi, au début, que je suis arrivée, c'était moins impressionnant, on va dire, moins récurrent. Là, je ne vais pas dire que c'est tous les jours, mais encore hier, hein, j'étais en service. Bon, c'était entre eux, hein, mais voilà, il y a eu l'alarme qui a été déclenchée. Il a fallu mettre fin à un incident quand même.
Vous avez déposé la plainte pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique après l'agression que vous avez connue. En novembre dernier, vous avez obtenu des indemnités. Sauf que, encore aujourd'hui, cette violence, vous avez du mal à la comprendre, vous avez du mal à l'appréhender. Ça vous a changé dans votre quotidien, dans votre travail ?
Alors, changer mon quotidien, pas forcément, parce que je suis retournée au travail les jours qui ont suivi. Mais disons qu'on réagit peut-être autrement, on réfléchit un peu plus. Et puis, on prend un peu plus de distance pour se protéger, nous, en priorité.
C'est-à-dire que vous réfléchissez deux fois avant d'intervenir aujourd'hui ?
Oui, bien sûr. On analyse plus déjà, voir le contexte, voir qui est en danger. Et on fait en tout cas plus attention au vu des agressions qu'on a en ce moment et de la gravité qu'elle engendre.
Nathalie, quand on parle de violence au quotidien, c'est quoi ? C'est une bagarre par jour, une bagarre par semaine, une bagarre tous les trois jours ? Je ne sais pas, je vous pose la question de manière assez basique, mais c'est répétitif ?
Oui, en ce moment, c'est très répétitif, que ce soit des bagarres entre personnes détenues ou sur personnel. C'est beaucoup plus important qu'avant, beaucoup plus impressionnant, parce qu'on a quand même des collègues blessés, des collègues en arrêt maladie. Sachant qu'on manque déjà pas mal de personnel, et ben forcément, ça fait encore du monde en moins, donc c'est encore plus dangereux, encore plus sensible. Donc ça devient compliqué.
Vous êtes combien de surveillants en pénitentiaire pour combien de détenus, Nathalie ?
Le problème, c'est que ça varie parce qu'il manque, on manque de personnel tous les jours. Donc, par exemple, ce matin à l'appel, il manquait trois collègues. Donc, c'est des étages qui sont soit découverts, soit les étages où on devrait être deux parce que justement, il y a des personnes détenues plus compliquées que d'autres. Et finalement, le collègue est tout seul.
Lucas, Nathalie parle de personnel qui manque, de gens en arrêt maladie, comme vous, mais de gens aussi en arrêt maladie pour des burn-out, des dépressions. Vous avez vu la situation changer ? Ça fait combien de temps, Lucas, que vous êtes surveillant pénitentiaire ?
Moi, ça va faire 2 ans.
Deux ans.
Je suis à mon média.
Vous avez vu des collègues qui s'arrêtent parce qu'ils n'en peuvent plus au quotidien ?
Ça, oui, j'en ai vu, ouais. En 2 ans seulement, ouais.
Ils vous disent quoi, ces collègues ?
Qui sont beaucoup plus anciens, qui n'en peuvent plus, parce que justement la mentalité a complètement changé, aussi bien des détenus que de la direction et des surveillants. Certains en ont ras-le-bol, et puis donc c'est plus du tout possible, hein, sachant qu'on reçoit de plus en plus de personnes détenues qui sont dangereuses et qu'ils sont connus pour ça, on le sait, et que notre centre de détention n'est pas du tout adapté à ça. Soit sont en burn-out, soit complètement changent de métier parce qu'ils n'en peuvent plus du tout.
Je rappelle que vous travaillez dans le centre pénitentiaire de Montmédy, dans la Meuse. Nathalie, vous, ça fait combien de temps que vous êtes surveillante pénitentiaire ?
Moi, ça fait un peu plus de 3 ans que je suis arrivée au centre de détention de Montmédy.
Parfois, vous vous dites pourquoi continuer ?
Non, parce que c'est quand même un métier que j'ai choisi, ouais. Que pour l'instant, je souhaite pas l'arrêter. Mais effectivement, je souhaiterais que la situation s'améliore, et pour les collègues, et pour nos conditions de travail.
Vous parlez de conditions de travail particulières. Un individu a mis le feu à 3 voitures stationnées sur le parking de la prison il y a que quelques semaines. 2 d'entre elles appartenaient à du personnel pénitentiaire. Une autre à une famille qui venait voir un détenu. Il s'agit d'un événement rare, Nathalie.
Oui, c'est jamais arrivé. Ouais. C'est jamais arrivé. Habituellement, on voit ça dans de plus grosses structures. Là, on a tous été choqués, honnêtement. C'était un peu le déclenchement à tout ça aussi.
Vous vous dites quoi entre collègues aujourd'hui ?
On pense tous la même chose, hein, que depuis le début de cette année, on reçoit énormément de gros profils, comme on les appelle.
C'est quoi les gros profils ?
Des gros profils, c'est déjà des personnes qui ont souvent des grosses peines, ouais. Qui en plus de ça ont des antécédents d'agression sur personnel connus et reconnus. Donc le problème, c'est que la direction les accepte, mais après c'est à nous de les gérer, et c'est là que c'est un peu plus compliqué, puisque souvent ils sont au quartier, donc au quartier le collègue est seul. Après, c'est aux étages fermés, mais comme je vous expliquais, souvent, soit le collègue est seul, soit le collègue qui doit être avec lui doit combler un autre étage parce qu'il manque du monde. Et en plus de tout ça, on n'est pas forcément soutenu par notre direction. Donc, ils sont un peu absents, nous on est un peu livrés à nous-mêmes. et ça devient pesant aussi par rapport à ça.
D'ailleurs, vous parlez de la direction. Qu'est-ce que vous dénoncez, Lucas, à Montmédy ? Une nouvelle direction est arrivée il y a quelques mois. Qu'est-ce qu'elle fait pour améliorer la situation ?
Justement, je cherche ce qu'elle fait pour améliorer la situation, parce que je ne saurais pas vous dire. Depuis le début de l'année, comme disait ma collègue, à part des détenus dangereux qui arrivent et un manque d'effectifs, rien n'a changé, en fait. Par que tout se dégrade, en fait. Donc on fait comme on peut, on se débrouille comme on peut, et puis on essaie de s'adapter, même si c'est pas la chose à faire normalement, quoi.
Vous aussi, vous en voulez à la direction, Nathalie. Il y a un manque de moyens réels et vous n'avez pas l'impression forcément d'être soutenue.
Non, on a vraiment l'impression d'être livré à nous-mêmes. Chaque intervention, c'est la même chose. On n'a pas de débriefing après. On n'est pas entouré. Chaque fois, on a l'impression que les détenus sont plus mis en sécurité que nous. Au niveau de l'agression du collègue d'il y a 15 jours, le détenu n'a pas effectué de quartier disciplinaire, mais a été mis en cellule de protection d'urgence, parce que soi-disant, il se sentait pas bien. Mais bon, le soir même, c'était de nouveau des insultes, etc. Donc je pense que ça aurait mérité quand même une peine autre que cette cellule-là.
Nathalie, ça veut dire que l'agresseur de Lucas n'a pas été placé à l'isolement ou en quartier disciplinaire, il a eu une cellule pour lui tout seul, une cellule de protection. Donc l'agresseur a une cellule de protection. C'est bien ça que vous nous dites.
Voilà. Apparemment, la personne détenue ne se sentait pas bien après l'agression. Il était décidé de le placer donc dans cette cellule seule, cette cellule de protection d'urgence, donc pour le protéger lui. Apparemment, quelques heures après, il insultait à nouveau, ça tapait dans la porte. Donc je pense que ça aurait été nécessaire de le mettre au quartier disciplinaire et non dans cette cellule, parce que pour nous, il n'y avait aucune raison de le mettre dans cette cellule. Et aujourd'hui, il a été hospitalisé. Son état de santé, on ne le connaît pas forcément. On n'a pas accès à tout ça, mais il semblerait que psychologiquement, il y a eu des failles.
Quand on est au quartier disciplinaire, ça change quoi dans le quotidien des détenus ?
Ils sont punis de tout. Il n'y a pas de télé, ils ont uniquement la radio. Ils ont le droit à rien. Donc c'est limité pour eux, mais c'est le but aussi, hein. C'est une punition à la base. Donc.
Nathalie, Lucas, on parle d'agression, on parle d'insultes, on parle de menaces au quotidien. On le disait, des conditions qui ne sont pas faciles au sein du centre pénitentiaire. Et dans la vraie vie, quand vous sortez, vous gagnez combien ?
On commence à 1700 euros à peu près.
D'accord, au bout de 3-4 ans de carrière, on est donc autour de 2000 euros par mois, c'est ça ?
Non, beaucoup moins, non.
Ah ouais ?
Moi, je suis dans ma troisième année, je suis pas à 2000 euros par mois.
D'accord, donc pour 1800 euros par mois, on risque sa vie ou de finir avec un traumatisme crânien comme Lucas, de se faire insulter et de se faire menacer physiquement, c'est bien ça ?
C'est à peu près ça, oui.
Lucas, j'ai bien résumé la situation ?
Exactement, c'est exactement ça.
Merci beaucoup Lucas, merci beaucoup Nathalie, c'est bien beau à la télévision d'avoir des tenues formidables de surveillants, d'avoir des publicités assez impressionnantes qui donnent envie d'être surveillant pénitentiaire, mais ça serait bien derrière d'avoir des moyens, on pense notamment à vous, vous êtes surveillant à la prison de Montmédy ou dans la Meuse où les agressions se multiplient. Merci à vous Lucas, Nathalie d'avoir témoigné, je sais que c'était pas facile, on vous l'avait fait anonymement, mais on vous salue pour votre courage et continuez de rester fort. Merci à vous deux, c'est important pour la société d'avoir des gens qui répondent présents.
Merci beaucoup.
Et merci à vous.
Je vous souhaite de passer un excellent dimanche sur RTL. Merci encore Nathalie, merci encore Lucas. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Ils sont maires de petites communes en France. Ils lancent l'alerte, ils démissionnent après avoir été victimes de menaces de mort. Certains ont vu leur maison se faire incendier. Un maire se confie sur RTL.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
Les maires jettent l'éponge. Selon un rapport du Sénat, 960 d'entre eux auraient démissionné depuis le dernier renouvellement municipal. La montée de la violence en est la principale raison. Il a été le plus jeune maire de sa région à 23 ans. En 2014, Pierre Griner est élu maire de Guèvrechain et il a remis sa démission à la sous-préfecture de Valenciennes. Il est mon invité dans Focus Dimanche. Bonjour Pierre Griner.
Bonjour.
On peut vous appeler encore monsieur le maire ?
On peut encore m'appeler monsieur le maire, puisque ma démission n'a pas été validée par monsieur le sous-préfet de Valenciennes et monsieur le préfet du Nord. Donc oui, je suis toujours maire en fonction.
Mais pourquoi ? Pourquoi elle n'a pas été validée ?
Parce que simplement, vis-à-vis de la situation que je vais avoir l'occasion d'expliquer, l'État a estimé que la démission que je déposais, si elle était acceptée, dans sa forme, lancer un message extrêmement négatif aux élus locaux, en disant que voilà, par rapport à une situation compliquée, dénoncer qui est une défaillance pour moi, hein, de la part des services de l'État, valider derrière que le maire démissionne par rapport à cette situation, c'était faire perdre un petit peu la face à l'État déjà comme soutien des collectivités locales, mais aussi lancer un appel peut-être à d'autres maires qui embrayeraient le pas.
Alors expliquez-nous pourquoi vous avez décidé de démissionner, pourquoi vous avez voulu démissionner.
Écoutez, les choses sont assez simples. Je suis maire d'une commune de 6000 habitants maintenant depuis un petit peu plus de 9 ans. On a des problématiques des fois de tranquillité publique, comme dans la plupart des communes. Et ce n'est pas réservé uniquement aux grandes communes ou aux communes de banlieue, on appelle souvent populaires. Les petites communes un peu plus rurales ou semi-urbaines sont aussi touchées par ces problèmes. Et puis, il y a un petit peu plus d'un mois, la police municipale de ma commune faisait une patrouille à repérer un jeune homme qui était en motocross, qui n'avait rien à faire sur la voie publique, a souhaité aller à sa rencontre, et à ce moment-là, il a démarré, il a commencé à rouler n'importe comment sur la voie publique, il a grillé deux stops, il a pris une rue en sens interdit, et puis la police municipale a pu l'intercepter. Il a été remis à un officier de police judiciaire, la moto a été confisquée temporairement en attendant la décision d'un magistrat, et la décision du parquet de Valenciennes a été de dire « c'est un primo-délinquant, nous lui faisons un rappel à la loi ». Première chose, pas de difficulté. Par contre, nous lui rendons la moto, alors que le parquet avait toute latitude à la saisir. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est qu'on a demandé aux policiers municipaux qui ont arrêté le jeune le mercredi de lui rendre la moto le vendredi matin. Et on le retrouvait le samedi suivant en train de faire du motocross en ville et pourrir la vie des gens. Quand on a ce genre de décision qui nous tombe dessus, on se dit que tout le travail qui est mis en place par les élus locaux, tout le travail qui est mis en place en termes de cohésion sociale pour expliquer à la population qu'on met de la vidéo, qu'on met des médiateurs, qu'on met de la police municipale, ben, est un petit peu annulé par des décisions de justice qu'on ne comprend pas trop, et qu'à ce moment-là, ben, on se sent inutile, donc quand on se sent inutile, autant démissionner.
Vous avez pris contact avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, vous lui avez dit quoi ?
Bah, je lui ai expliqué la situation, que j'allais remettre ma démission parce que je me sentais complètement inutile vis-à-vis de ma décision, et que il fallait très rapidement que l'État regagne un petit peu un pacte de confiance avec les élus locaux sur différents sujets. Alors il y a cette problématique de la tranquillité publique, mais il y en a bien d'autres pour soutenir l'action des élus locaux qui généralement mouillent la chemise, sont à portée de baffe, il faut dire clairement les choses, puisqu'ils sont les premiers en contact avec leurs concitoyens. Je pense que les élections qui rencontrent le plus de participation sont les élections municipales et présidentielles. Donc en France, excusez-moi le terme, mais si on devait résumer, les chouchous, les élus chouchous, c'est le président de la République et les maires. Et que si on n'a pas un soutien de la part des services de l'État, avec des décisions parfois de justice, avec des actions coordonnées entre l'État et les collectivités locales, ben beaucoup de maires vont jeter l'éponge.
Il vous a répondu, le ministre de l'Intérieur ?
Le ministre de l'Intérieur m'a répondu qu'effectivement, il fallait pas démissionner et qu'il fallait très rapidement prendre contact avec le préfet de région. Le préfet Leclerc a pris contact avec moi. On a eu un échange assez clair sur le sujet pour expliquer un petit peu ce qui se passait. L'objectif, c'est de travailler ensemble et de donner une réponse pénale cohérente.
En fait, Pierre Griner, vous vous sentez seul?
En fait, on se sent seul. On a l'impression qu'on perd un petit peu la face puisque il y a un décalage entre des décisions qui peuvent être prises et la réalité de terrain. Ouais. Pour être clair, quand on met en place des actions, on dit voilà, on veut travailler sur la tranquillité publique. Dès qu'on lance ce sujet-là, tout le monde est d'accord, tout le monde vient, il y a grand-messe, on fait commune de la communication et le préfet, le déplacement des ministres, etc. ou quoi que ce soit. Et puis après, quand on se rend compte qu'on arrive sur des questions plus opérationnelles, ben en fait, chacun travaille un petit peu dans son coin, il n'y a pas de cohérence sur la politique publique qui est mise sur le sujet. Donc, on se sent des fois un petit peu seul parce qu'on dit, mais attendez, moi je fais ma part du travail, je mets de la vidéoprotection, de la police, des médiateurs, j'organise des services enfance jeunesse, de la prévention de la délinquance, et puis ben, des fois il y a des gens qui passent à travers les mailles du filet, qui font des bêtises ou quoi que ce soit. Lorsqu'on arrive avec des moyens répressifs à récupérer ces personnes-là, leur moto, leur voiture ou quoi que ce soit, ce que j'attends, c'est que la logique derrière dise, ben, la justice, nous on est au rendez-vous, vous avez mis des moyens, et ben les motos on les confisque, les voitures on fait le maximum pour pas qu'elles repartent sur la voie publique, et les auteurs sont punis.
Vous avez dit tout à l'heure, on est à portée de baffe quand on est maire. 960 maires qui ont démissionné depuis plusieurs mois. Il y a eu le maire de Saint-Brévin qui a vu sa maison se faire incendier, des menaces de mort, des agressions physiques sur les maires. Il y a aussi un ras-le-bol des maires, j'imagine que vous discutez entre collègues Pierre Griner et que vous échangez sur cette situation qui devient intenable pour certains.
Alors, il y a ras-le-bol à différents niveaux. Premièrement, effectivement, il y a la question d'une montée de la violence. Vous savez, je pense que ça touche les maires, mais ça touche aussi un petit peu plus tout ce qui peut représenter d'une certaine manière l'autorité, la République. Regardez chez les enseignants, il y avait auparavant un respect et une crainte de l'instituteur. Ça touche aussi les élus locaux. Parce que les élus locaux, et vous l'avez souligné, je l'ai dit tout à l'heure, sont à portée de baffe. Moi, j'habite une commune de 6000 habitants, je fais mes courses dans la commune, je vais chercher une baguette le matin, je vais me promener avec mes enfants dans le parc de la commune, et que si quelqu'un a une difficulté, on peut en discuter tranquillement, mais aussi, des gens qui sont peut-être un petit peu plus violents peuvent facilement nous retrouver. Les gens savent très bien où j'habite, connaissent ma voiture, connaissent mes habitudes, connaissent mes enfants, ma femme, enfin voilà. Et aujourd'hui, on se rend compte, et je pense que c'est un effet Covid aussi, qu'il y a une montée de la violence et que sur une prise de décision qui peut paraître anodine pour un tout à chacun, bah certaines personnes ont une réaction clairement disproportionnée et n'ont pas peur d'avoir recours à des faits de violence.
Vous avez déjà fait face à la violence ?
Et on l'a déjà eu, alors plus ou moins en direct, et puis les choses, on essaye de les apaiser, ça se règle. Ouais. Quand il s'agit d'une violence verbale ou quoi que ce soit, physique, pas forcément été touché directement. Par contre, on a eu de la violence qui touche nos biens d'habitation. Vous savez, moi j'ai eu deux véhicules incendiés. J'ai mon premier adjoint qui a eu aussi son véhicule incendié. Un de mes collaborateurs au cabinet qui a eu son véhicule incendié. Un autre de mes adjoints qui a eu un véhicule incendié. Et à chaque fois, on se rendait compte que les véhicules brûlés, juste après qu'il y ait eu une prise de décision sur des questions d'urbanisme, sur des sujets où on voyait qu'il y avait des transactions un petit peu louches sur des ventes de terrain, et ben répercussion, ben le maire a fait appliquer les choses, il nous empêche de faire un petit peu ce qu'on veut, et ben on vient brûler sa voiture, et ben on va embêter l'adjoint à l'urbanisme, et on va embêter des techniciens territoriaux dans leur travail pour leur faire peur, et finalement qu'ils perdent un petit peu la face, qu'ils arrêtent leurs activités, et que ben finalement les petits arrangements et le petit fonctionnement qu'il y avait au quotidien puissent continuer.
C'est fou quand même ce que vous racontez, Pierre Griner. En fait, vous avez commencé une liste de voitures qui avaient brûlé et vous en avez cité quasiment 5 ou 6. C'est assez impressionnant.
C'est assez impressionnant et ça joue forcément sur le moral. Vous savez, moi j'ai un de mes adjoints qui a eu son véhicule brûlé, qui a rencontré d'autres problèmes, qui m'a dit moi je repars pas pour un second mandat.
Pierre Griner, vous avez été maire à 23 ans, je le disais, le plus jeune maire de la région. Votre vocation, elle était chez vous, innée depuis l'enfance, etc. Maintenant, vous n'en avez plus envie.
Alors on n'en a plus envie, vous savez, il y a toujours un penchant. Il y a toujours le penchant de dire, il y a des gens, et j'ai eu énormément de manifestations de la part de collègues élus et d'habitants de ma commune, mais aussi d'habitants de toute la France, qui m'ont dit, monsieur le maire, il ne faut pas lâcher le morceau. Vous avez démissionné, certes c'est un coup de gueule, certes vous avez raison ou quoi que ce soit, mais vous donnez raison à des gens qui font des bêtises et vous laissez la place à d'autres personnes qui viendront et qui auront peut-être dans leur fonction d'élu, peut-être moins d'engouement et de passion que vous. Donc, cette part-là, quand vous prenez ce type de décision et que vous avez ce genre de manifestation de vos collègues élus, des concitoyens, vous dites, bon, j'ai encore quelque chose à faire et au fond de vous, vous avez toujours des choses à faire. Moi, j'ai des projets pour ma commune, mais d'un autre côté, quand on a 32 ans, je suis père de famille, j'ai deux enfants, j'ai une femme qui travaille, on se dit que aussi, des fois, ben, on a peut-être envie de faire d'autres choses, de se protéger un petit peu plus et de protéger aussi sa famille de toute cette violence qu'elle n'a pas choisie. Moi, mes enfants n'ont pas choisi que leur papa soit maire et subissent toutes ces violences-là, ce qui n'est pas normal. Et donc, on réfléchit, on se dit, est-ce qu'on ferait pas autre chose? Est-ce qu'on changerait pas de vie? Et je trouve ça un peu triste parce que, vous l'avez dit, effectivement, quand on se présente à une élection locale, c'est qu'on a envie de porter des choses au plus profond de soi-même, on défend des valeurs. Se dire, bah, je suis obligé d'arrêter parce que, finalement, je me sens abandonné par l'État, parce que je me sens peu soutenu par l'État, parce qu'on donne raison à certains uluberlus qui font des bêtises, c'est quand même un aveu d'échec et ça a un goût amer.
Merci beaucoup Pierre Griner, merci beaucoup monsieur le maire de Guièvre-Chien. Vous avez remis votre démission, mais elle a été pour l'instant refusée par la sous-préfecture de Valenciennes, donc je peux encore vous appeler monsieur le maire. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RTL dans Focus Dimanche. Merci beaucoup Pierre Griner.
Merci à vous et très bon dimanche à toutes et à tous.
Bon dimanche à vous. Des mamies championnes de foot, ça vous surprend? Pourtant, ça existe. On les appelle les mamies footeuses. Elles ont d'ailleurs disputé la Coupe du Monde en Afrique du Sud il y a quelques semaines. Elles sont mes invitées sur RTL. A tout de suite.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
La compétition ne leur fait pas peur. Avez-vous déjà entendu parler des mamies footeuses? Oui, oui, des mamies qui jouent au foot. Certaines ont d'ailleurs participé à la première Coupe du Monde pour les mamies. C'était en Afrique du Sud il y a tout juste 2 semaines. Et 2 d'entre elles sont mes invitées dans Focus Dimanche. Bonjour Brigitte Hygel.
Bonjour Mohamed.
Vous venez de Sainte-Geneviève-des-Bois. Vous êtes avec nous en studio et vous êtes âgée de 63 ans. Bonjour Patricia Brault.
Bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe.
Vous êtes âgée de 64 ans. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes des mamies très très sportives et des mamies très très techniques?
Alors, très très sportive, Brigitte. Je pense que oui, enfin pour ma part en tout cas, parce que je continue, je joue toujours au football, donc ça fait depuis un petit moment, hein. J'avais commencé jeune, enfin vers 15 ans jusqu'à 19 ans, j'ai arrêté pendant 25 ans et j'ai repris à 42 ans et je joue toujours.
Patricia, on parle de vous aujourd'hui parce qu'il y a 2 semaines, vous avez vécu quelque chose d'exceptionnel. Vous avez vécu la Coupe du Monde des grands-mères, je peux le résumer comme ça. Ça s'est passé en Afrique du Sud. Racontez-nous cette aventure incroyable.
Alors c'est vrai que c'est une aventure incroyable. Déjà le déplacement, nous avons fait 11 heures de vol et 5 heures de minibus pour arriver dans la province du Limpopo. Et c'est vrai que c'était déjà une sacrée aventure. Ensuite de rencontrer les personnes là-bas, l'accueil qu'on a eu, on a eu un accueil incroyable, comme si qu'on était des championnes du monde. Ça nous restera toujours dans notre cœur. C'est vrai qu'on a été très très surprise. L'accueil à l'aéroport déjà par toutes les joueuses. On a dansé, on a fait la fête, que c'était exceptionnel, franchement.
C'était une aventure dingue, Brigitte, cette Coupe du Monde. Vous êtes allée jusqu'à quel stade de la compétition?
On est allée jusqu'en quart de finale.
Ah oui, quand même?
Quand même.
On est fiers de vous.
Hein. Oui, quand même.
Hein. On est très heureux.
On a fini première de notre poule avec 3 matchs joués, 3 matchs gagnés.
Il y avait qui dans la poule?
Alors, on avait des équipes africaines, surtout. Voilà, on avait le Zimbabwe et puis on avait des équipes d'Afrique du Sud. Voilà.
Et ensuite, en quart de finale, vous avez perdu?
En quart de finale, on a fait match nul.
D'accord.
0-0, donc pas de but ni d'un côté ni de l'autre. Mais forcément, il y a eu les tirs au but.
Oh non, pas les tirs au but.
Et si, malheureusement.
Vous avez perdu au tir au but.
Et ouais, c'est la loterie, c'est toujours ça. Hein, les pénaltys,
c'était contre qui?
C'était contre une équipe africaine également. D'accord. C'était les Mbombela Gogos.
Non mais alors vous avez perdu au tir au but, c'est la pire des choses.
Ah, c'est clair, c'est le pire. Ça, perdre sur les tirs au but, c'est quelque chose de... voilà, il n'y a pas de mots, on peut pas dire plus, c'est vraiment très, très triste. Mais bon, on a déjà été jusqu'en quart de finale, ce qui est déjà très très bien pour une équipe qui n'avait jamais joué ensemble, il faut le savoir. Ouais. Parce qu'on est quand même un petit peu éparpillé dans toute la France.
Brigitte, racontez-nous comment ça s'est passé les qualifications, là-bas comment ça s'est passé les entraînements, est-ce que vous vous entraînez souvent, ça se passe comment le quotidien d'une mamie footeuse?
En Afrique du Sud, il faut savoir qu'on n'a pas eu beaucoup l'occasion de s'entraîner.
D'accord.
On est arrivé, on a été un petit peu trimballé à droite à gauche. Bon, tout le monde voulait nous voir, tout le monde voulait prendre des photos avec nous. Enfin,
vous êtes un peu les Harlem Globetrotters.
Carrément.
Les Harlem Globetrotters.
Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est échauffé un petit peu avant les matchs, mais bon, c'était vraiment très léger. Et je pense que si on avait eu, on était un petit peu juste au niveau effectif, on était 12, donc une seule remplaçante. Je pense que si on avait eu 2-3 personnes de plus, on aurait pu aller beaucoup plus loin.
Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a un message derrière cette mamie footeuse et derrière cette Coupe du Monde. Vous faites toutes les deux parties de l'association Footeuse à tout âge. Il y a des adhérentes qui viennent de toute la France. Et vous répétez, on a plus de 50 ans, et à plus de 50 ans, on peut s'entretenir, on peut jouer ensemble, on peut vivre des belles émotions ensemble, Brigitte.
Tout à fait, tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est pas parce qu'on a plus de 50 ans qu'on peut plus faire de sport. Au contraire, ça contribue également à la santé, au fait d'être en forme, etc. On n'a qu'une chose à dire, c'est rejoignez-nous, quoi.
Ouais. Patricia, vous dites même que le sport vous a sauvé la vie plus jeune. Racontez-nous.
Oui. Bah, j'ai eu un grave accident de voiture, j'avais 11 ans, donc j'étais dans le coma. Et bon, j'ai eu ma jambe qui était bien amochée. Et c'est vrai que c'est la natation qui m'a remis sur pied. D'ailleurs, j'ai passé mon diplôme de maître nageur plus tard. Mais c'est surtout le sport, de faire de l'athlétisme. C'est vrai que je courais assez vite. Après, bon, j'ai eu d'autres soucis, accident de moto, accident de voiture, à cheval aussi. Bon, bref, c'est vrai que je suis assez complète, un peu casse-cou quand même. Mais bon, après, voilà, le foot permet de prendre soin de notre santé, de chausser les crampons, d'être avec des copines et de s'amuser. Surtout de pas se prendre au sérieux, s'amuser. Ouais. C'est s'amuser, avoir le moral.
C'est ça, bouger, avoir le moral et de montrer qu'on est capable de traverser le monde pour aller réaliser des choses exceptionnelles.
Carrément, c'est tout à fait ça. Hein. Quand on est plusieurs, en plus à se motiver, etc., et ben on a envie de donner le plus qu'on peut. Et vraiment, c'est vraiment magnifique, quoi.
Et qu'en pensait Mégane, votre fille? Qu'est-ce qu'elle a dit, Mégane, sur sa maman, Brigitte?
Mégane, ma fille, elle est très fière. Elle est très fière de moi. Elle m'encourage à continuer dans cette voie-là, quoi.
Et Patricia, vos quatre petits-fils, qu'est-ce qu'ils disent, eux, de leur grand-mère?
Oui, petits-fils et petites-filles, c'est vrai qu'ils sont super fiers. Je pense qu'ils ne réalisent pas vraiment, parce que, comme toutes les autres personnes en France, hein, on ne pensait même pas que ça existait, que c'est tout à fait nouveau. Nous, on a envie que ça perdure, que ça prenne de l'ampleur. N'hésitez pas à adhérer à l'association Footeuses à tout âge avec Marie-France Gosselet. Et on a besoin de sponsors pour réaliser notre rêve. On a besoin d'aller plus loin.
Ouais, et surtout, c'est pas des sommes astronomiques, j'imagine, dont vous avez besoin. Alors, si vous écoutez RTL aujourd'hui, si vous êtes un chef d'entreprise, une chef d'entreprise, et que vous voulez soutenir l'association Footeuses à tout âge, eh bien, contactez-les. Elle nous le dit, Patricia, on a besoin de sponsors, ça c'est clair, on a compris, mais on a aussi besoin de coéquipières. Il faut venir nous rejoindre là.
Tout à fait, tout à fait. On encourage toutes les femmes de plus de 50 ans à venir, à s'inscrire à l'association et à nous rejoindre pour vivre toutes ces belles aventures qu'on vit actuellement, quoi.
Brigitte, qu'il n'y aurait pas un lien avec un certain Bernard Yégel?
Tout à fait, c'est mon papa, oui, qui était footballeur professionnel.
Oui, c'est pas n'importe quel footballeur, multiple champion de France. Entraîneur, champion de France dans le Reims de la grande époque des années 60.
C'est ça.
Avec Raymond Coppa, avec Piantoni,
avec Vincent.
Avec Jean-Vincent, ouais. Avec les plus grands joueurs de l'époque. Finale de compétition européenne aussi, Champions League. Mm. Bernard Yégel, qui était entraîneur, il a 82 ans aujourd'hui.
C'est ça, oui.
Il a dit quoi de sa fille, Bernard Yégel?
Il est content aussi, hein, il est fier, je pense. Il le dit pas trop, mais bon, je pense qu'il est fier de moi quand même.
Il a vu quelques petits bouts de match?
Oui, je lui ai envoyé, on a envoyé des photos, ouais. Il y a eu des films, un film qui a été fait sur les quarts de finale, justement, le match a été filmé, donc je lui ai envoyé, donc il a regardé, il a regardé.
Il a essayé de vous replacer à travers la télévision, en vous disant, non, ça c'était pas bien, ça, parce que c'était un très bon entraîneur, votre père, hein, Bernard Yégel.
Ah oui, il a été très, très bon entraîneur à Saint-Brévin, justement, où il a fait monter l'équipe à l'époque. Hein, ouais. Il me donne des petits conseils de temps en temps, ouais.
Et le prochain tournoi, c'est pour quand?
Alors, on en a un normalement à Bière-sur-Cère fin juin, puis après, on verra.
On viendra vous voir, Patricia. On viendra vous voir, oui. À Bière-sur-Seine, c'est ça?
Bière-sur-Cère, oui.
Bière-sur-Cère, on viendra vous voir avec Brigitte et Yégel, Patricia Brault. Merci beaucoup de nous avoir fait rêver.
Alors, excusez-moi.
Oui, Patricia, excusez-moi. Dites-moi.
On se retrouve normalement dans 2 ans en Zambie.
En Zambie? Ah, dans 2 ans en Zambie?
Oui.
Voilà, donc oui. Là, il faut des sponsors pour la compétition. Et il faut,
voilà, s'il vous plaît.
Et il faut des sponsors, oui. Il faut un équipementier. Vous avez quoi comme tenue?
Alors, l'équipementier, ça y est, pour l'instant, on a la tenue. On
D'accord.
a eu les maillots, shorts, chaussettes.
Les crampons,
non, pas encore.
Bon, on va trouver des crampons.
Voilà.
On le dit sur RTL, on va vous trouver une quinzaine de crampons. On va contacter des sponsors, des équipementiers. Nike, Adidas, Puma, réveillez-vous. On a besoin d'une quinzaine de crampons pour les mamies footeuses. Parce que sans crampons, on n'est pas capable d'aller chercher la Marseillaise et le titre. Voilà.
Tout à fait.
Merci. Merci de porter aussi fièrement les couleurs de la France, Patricia Brault, Brigitte Yégel. Vous êtes nos mamies footeuses, vous êtes rayonnantes, voilà. Et on vous souhaite plein de bonheur. Et en Zambie, vous nous ramenez la coupe à la maison comme les garçons.
On espère bien, oui.
Comme ça, la prochaine fois que vous venez sur RTL, on vous met à ramener la coupe à la maison de VG Dream.
Voilà.
Merci à vous deux d'avoir été mes invités aujourd'hui sur RTL. Je vous souhaite plein de bonheur avec le football, bien évidemment. Bon dimanche à vous, Brigitte Yégel et Patricia Brault.
Merci à vous.
À bientôt.
Merci beaucoup.
700 000 Français vivent avec un trouble autistique. C'est le cas de Titouan, il a 22 ans. Vous allez découvrir son histoire incroyable. Avec sa maman, il est allé escalader plusieurs sommets au Népal et prépare l'ascension du Mont Blanc. C'est dans un instant et c'est sur RTL.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
En France, ils sont 700 000 à vivre avec un trouble autistique. À 22 ans, Titouan a dû mener un combat pour espérer décrocher un job. Et des refus à répétition pendant sa scolarité, il a souvent été seul. Aujourd'hui encore, il a du mal à se faire des amis. Et pourtant, il se bat, il se lance des défis. Et il est l'auteur d'une histoire assez incroyable qu'on va raconter dans quelques secondes. Il est mon invité dans Focus Dimanche. Bonjour Titouan.
Bonjour.
Avec nous également ta maman, Ninon Legendre. Bonjour Ninon.
Bonjour.
Titouan, pour expliquer aux auditrices et aux auditeurs de Focus Dimanche comment ça se passe, comment se traduit ton trouble autistique?
Disons que concrètement dans mon cas, je suis mauvais dans les relations sociales. C'est très difficile pour moi d'aller vers les autres.
C'est en 2004 que tu as été diagnostiqué autiste typique moyen. Ninon, quels ont été les signes qui vous ont interpellé avec son papa, sachant qu'à la fin des années 90, au début des années 2000, on avait encore du mal à diagnostiquer le cas des autistes?
Oui. Alors les premiers signes dans le cas de Titouan qui nous ont alertés, c'est vraiment qu'il ne regardait pas, il ne nous regardait pas. Quand on allait le coucher le soir, il fixait le plafond, mais c'est vrai qu'on avait beaucoup de mal à croiser son regard. Et puis après, il s'est mis à faire beaucoup de choses, de comportements stéréotypés. Par exemple, il alignait les petites voitures, il éteignait la lumière sans arrêt. Et les mots ne sont pas venus, hein, il ne s'est pas mis à parler. Et tout ça nous a vraiment beaucoup interrogé.
Et d'ailleurs, ce qui vous a interrogé aussi, ce qui vous a, excusez-moi du terme, peut-être même dégoûté, ce sont les mauvais diagnostics qu'on a posés sur votre fils. Un jour, un médecin vous donne comme explication, peut-être que vous ne l'avez pas aimé comme vos autres fils. À ce moment-là, vous réagissez comment ? Racontez-nous.
À ce moment-là, avec beaucoup de culpabilité, hein, comme beaucoup de parents à l'époque, on a très longuement erré avant d'avoir un diagnostic d'autisme. Hein. Je pensais que j'étais une mauvaise mère. On a erré vraiment pendant quelques années. Et puis, il a fait sa rentrée en maternelle. Il avait 3 ans et 9 mois. Et à ce moment-là, on nous a orientés vers un CAMS.
Et c'est quoi un CAMS?
Centre d'aide médico-sociale précoce. Et le CAMS, à l'époque, a posé un diagnostic de dysharmonie psychotique infantile. C'est un truc qui n'existait qu'en France, hein. Et c'est en tapant ce mot-là sur Internet que j'ai réalisé que mon fils était autiste.
Il a prononcé ses premiers mots à quel âge, Titouan ?
À 4 ans et demi.
Titouan, comment s'est déroulée ta scolarité lors des récréations ? Qu'est-ce que tu faisais ? Tu le disais, tu as du mal à être sociable. J'imagine que ça a été des moments difficiles pour toi, ces années d'études.
Disons que je restais seul tout le temps. C'était très difficile d'aller vers les autres.
Tu as obtenu, Titouan, ton bac en 2019 avec une mention. Quoi comme mention d'ailleurs, Titouan ?
La mention très bien.
Bah, c'est pas mal ça. J'imagine que t'en es fier quand même de cette mention très bien.
Oui, j'en suis fier. J'étais très joyeux à ce moment-là et j'avais un sentiment de fierté qui m'envahissait.
C'était quel bac d'ailleurs, Titouan ?
C'était le bac anciennement connu sous le nom de STMG.
Qu'est-ce qui pêche aujourd'hui, Ninon, dans la prise en charge des personnes ayant un trouble autistique ? On sait que ça augmente. 700 000 personnes en France, on sait que ça va continuer d'augmenter.
Ce qui pêche, c'est vraiment cette aide à l'inclusion. Titouan, c'était un jeune sage, un jeune modèle qui étudiait bien, qui travaillait bien et qui dérangeait personne. Et du coup, on le laissait tranquille, hein, il embêtait personne. Et finalement, par exemple, à l'IUT, le système qui est proposé actuellement en France, ce sont des secrétaires qui se relaient. Il en a eu 4 pendant 2 ans, qui se relaient pour l'aider à prendre les cours. Titouan n'avait pas besoin de ça. Il avait besoin de personnes qui l'aident à aller vers les autres. Et moi, ce que j'aimerais qu'il soit mis en place, parfois ça l'est dans certaines facs, mais pas dans notre région encore, c'est un système de tutorat des étudiants qui aideraient les personnes autistes à avoir une vie sociale. C'est vraiment ça qui a été douloureux et compliqué pour Titouan.
Avant de poursuivre notre entretien, je vous propose d'écouter Geneviève Darrieussecq, la ministre déléguée chargée des personnes handicapées. C'était le 28 mars dernier à l'Assemblée nationale.
5 centres d'excellence qui ont été formés, structurés, un groupement d'intérêt scientifique repéré précocement. Les enfants prendront en charge précocement au sein de ces plateformes de coordination, 97 plateformes qui ont été créées et 41 000 enfants pris en charge au sein de ces plateformes depuis qu'elles ont été constituées, 440 dispositifs médico-sociaux afin d'aider ces enfants à intégrer l'école de la République. Et puis, bien sûr, l'emploi accompagné, parce que ces personnes-là accèdent à l'emploi également et on les accompagne à pouvoir rentrer dans les entreprises et accéder à des emplois de qualité.
La ministre déléguée chargée des personnes en situation de handicap, Geneviève Darrieussecq, qui évoque la construction d'une nouvelle stratégie national. Ça vous évoque quoi, Ninon ?
De la colère, vraiment. Je suis actuellement en train, là, même aujourd'hui même, de donner une formation à des psychologues, éducatrices, etc., sur le terrain. Les enfants sont diagnostiqués, il y a des délais d'attente de 18 mois pour obtenir un diagnostic. Et ensuite, il n'y a pas de prise en charge adaptée, il n'y a pas de place dans les établissements. Ça avance, mais ça avance très, très, très doucement. Ce que je vois autour de moi, c'est de la détresse de la part des parents, de la détresse de la part des enfants, des ados et des jeunes autistes. Et alors, si on parle d'accompagnement à l'emploi, ça a été pour Titouan, qui a trouvé un travail hein, depuis 2 mois et demi, une galère sans nom. Et l'accompagnement, non, il n'en a pas eu.
Titouan, tu travailles dans quoi depuis 2 mois et demi ?
Je travaille dans le secteur de la comptabilité, en tant qu'assistant comptable.
Titouan, j'ai rencontré il y a quelques jours un jeune homme qui s'appelle Samuel, qui était atteint de troubles autistiques, qui a eu 151 entretiens d'embauche. Tous les entretiens se sont terminés par un refus. Est-ce que tu as connu les mêmes difficultés ?
Tous mes précédents entretiens, la principale raison du refus, c'est à cause de mon autisme.
Ninon, quand vous voyez votre fils qui a connu autant de galères pour trouver un travail, j'imagine que quand on est maman, ça nous met en rage.
Je n'avais jamais vu Titouan aussi malheureux que pendant cette période où il cherchait désespérément un emploi. Il m'a dit ces mots, il m'a dit « je suis un boulet ». Hein. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est un jeune homme qui s'est battu, qui a fait des études, qui a travaillé de façon acharnée et qui est persévérant dans tout ce qu'il fait. Et en arrivé là, mais oui, ça m'a brisé le cœur, vraiment.
Combien de rejets, combien de refus de CV de Titouan ?
Alors, combien il a dû en envoyer ? Peut-être 70, quelque chose comme ça. Il a passé une douzaine d'entretiens. Et même parfois sur des postes pour lesquels il était surqualifié, mais sa candidature n'était jamais retenue.
Mais il y a quelque chose qui vous a rapproché, c'est le sport. Vous êtes allé faire des trails, vous êtes allé gravir quelques petits sommets au Népal, c'est bien ça, Ninon ?
Oui. On a fait pas mal de trails, on continue. Là, on fait après-demain encore un 42 km, on a fait des marathons. Et surtout, on avait ce rêve-là de partir au Népal. Donc, on est parti presque un mois là-bas pour une course par étapes. Et c'était juste magique d'aller à plus de 5000 mètres d'altitude.
Titouan, qu'est-ce que tu as vécu avec ta maman au Népal quand vous étiez à plus de 6000 mètres en train de courir, en train de gravir ces sommets ?
C'était un moment incroyable. C'était magique, difficile et épique.
Une belle victoire et aussi un beau défi que tu t'étais fixé avec ta maman. D'ailleurs, Ninon, pour montrer que vous êtes capable à chaque fois de repousser les limites, ça y est, vous avez fait le Népal avec plus de 6000 mètres, etc. La prochaine étape avec Titouan, en juin, c'est le Mont Blanc, c'est ça ? Juste le Mont Blanc ?
Oui, on fait juste le Mont Blanc, mais par la voie italienne, qui est la plus difficile.
Ça se passe comment, cette préparation ?
On court beaucoup. On enchaîne les trails, hein. 42 km ce samedi, un marathon la semaine prochaine, un semi-marathon la suivante, et 2 marathons en mai, enfin bref.
Comment
on n'arrête pas ensemble.
Comment il se comporte, Titouan, quand il est à 6000 mètres ? Je vous le dis sincèrement, je pose les questions de manière directe et claire, Ninon. Il faut changer le regard sur les troubles autistique. Quand on est capable de faire 70 entretiens d'embauche, 151, quand on est capable de gravir 6000 mètres, on est peut-être plus fort que les autres. Vous pouvez nous dire comment il se prépare ? Il doit être d'un courage incroyable, Titouan.
Titouan, il est persévérant en tout, en sport comme dans les études. C'est vraiment ça. Je crois qu'il a cette volonté d'y arriver. Peut-être parce que justement, on nous a dit à nous hein, qu'il ne parlerait probablement jamais. Et je crois qu'il a cette envie de prouver qu'il est capable de le faire. Ce qu'on veut vraiment faire, hein, c'est pour ça qu'on a répondu à cet appel de votre radio, c'est faire bouger les lignes, sensibiliser les gens et leur dire « Mais ok, ils sont autistes, mais ils sont capables de travailler, capable de faire plein de choses. Et je crois que c'est vraiment le message qu'on a envie de faire passer aujourd'hui.
Et il y a une phrase magnifique. L'autisme est un soleil inversé. Ses rayons sont dirigés vers l'intérieur. C'est une magnifique phrase de Christian Bobin. Et c'est important. C'est un trouble autistique. Ce n'est pas une maladie. Merci beaucoup, Ninon. Merci à vous.
Merci
à vous deux. Merci, Titouan. Merci d'avoir été mes invités. Sale PD à mort. Voici le message que Yann et Loïc ont retrouvé sur leur porte. Les deux papas de Rose sont mes invités dans un instant sur RTL.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
Sale PD à mort. Voici le message homophobe que Yann et Loïc ont retrouvé sur leur porte. Pour la sécurité de leur petite fille Rose et la leur, ils vont devoir déménager. Ces deux papas sont mes invités dans Focus Dimanche. Bonjour Yann.
Bonjour, bonjour.
Bonjour Loïc.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de témoigner. Loïc, est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce qu'il s'est passé dans la nuit du 2 au 3 avril ?
Qu'est-ce qui s'est passé ? On a sorti les chiens, comme d'habitude, vers 22h, 22h30. C'est la dernière sortie qu'on fait tous les jours. On est remonté, la porte allait très bien, il n'y avait pas d'inscription. On s'est couché, on a passé la nuit. Yann a sorti les chiens le lendemain matin, première sortie de la journée. Et quand il est remonté, il m'a dit « viens voir notre porte d'entrée ». Et là, il m'a montré qu'on avait effectivement une grosse inscription en lettres blanches avec écrit « sale PD à mort » sur notre porte.
Yann, quand vous découvrez ce message « sale PD à mort », quelle est votre réaction ?
Incompréhension, colère, de la tristesse. Mais on doit vite réagir parce que il faut qu'on gère Rose et qu'on aille l'amener chez la nounou et qu'on prenne notre boulot. Donc on n'a pas le temps de trop réaliser tout de suite le matin même. On le réalisera au fil de la journée que quelque chose de grave s'est passé.
Et d'ailleurs, Yann, vous habitez dans un quartier pavillonnaire, dans une zone plutôt calme. Je crois que vous habitez à Saint-Germain-en-Laye, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Avant ça, ça vous était déjà arrivé de faire face à autant d'homophobie, notamment dans votre résidence, notamment dans votre quotidien à Saint-Germain-en-Laye ?
Autant non, parce que là je pense qu'on a, avec le message à mort, on a passé un cap. Mais oui, depuis notre installation en 2019, on a eu régulièrement affaire à des petits actes homophobes où on visait nos boîtes aux lettres. Et c'est allé crescendo en fait. Ça a commencé par des petits tracts, la manif pour tous, pour bien nous faire comprendre qu'on n'était peut-être pas les bienvenus. Et après, on a eu un PD de gravé sur la boîte aux lettres. On pensait que c'était une bêtise d'adolescent. Et là, dernièrement, avec ce mot sur la porte, on se rend compte que c'était pas une bêtise d'adolescent, mais qu'il y avait quelque chose de plus grave derrière.
Elle a quel âge, Rose Loïc ?
Elle a 5 mois.
5 mois, c'est un bébé, j'imagine que... Alors quand on est bébé, on comprend beaucoup de choses, il y a de l'émotion autour de nous, etc. J'imagine que quand vous avez découvert cette inscription « sale PD à mort », votre priorité, ça a été de la protéger, en tout cas de lui faire comprendre que ces deux papas géraient une situation tant bien que mal.
Exactement. Là, en fait, il fallait que nous, on reste zen. C'est à cet âge-là, c'est des éponges émotionnelles. Si on va pas bien, ils vont pas bien. Donc, il fallait que nous, on reste zen pour reprendre les transports en commun comme on fait tous les jours et l'emmener chez la nounou et qu'elle elle aille au mieux.
Yann, vous avez déposé plainte avec Loïc ?
Oui.
Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, la gendarmerie, à ce moment-là, au moment de l'annonce, au moment de la plainte, au moment où vous leur avez dit « ça va trop loin, là, c'est plus possible » ?
Énormément de soutien de la part de la gendarmerie qui ont vu dans quel état on était et qui ont pris en compte l'escalade dans la violence homophobe et ils nous ont assuré de faire tout leur possible pour que ça n'aille pas plus loin quoi et qu'une enquête soit faite pour calmer les ardeurs de certains et voir les punir si on arrive à les retrouver.
Loïc, on ne sait pas ce que peut être la prochaine étape et vous êtes persuadé qu'il s'agit d'un membre de l'immeuble ?
Persuadé non, il y a toujours un doute, mais c'est fort probable. On a une grille avec un digicode pour rentrer dans l'enceinte de plusieurs bâtiments et ensuite il faut un badge pour rentrer dans notre bâtiment. Il faut savoir qu'on habite à cet étage, que c'est cette porte-là, donc c'est quelqu'un qui sait, oui, donc on pense que c'est un voisin.
C'est quoi le profil, Yann, des gens qui habitent dans votre résidence ? Est-ce qu'on vous a déjà montré de l'hostilité en face à face dans votre résidence ?
Non, on n'a jamais eu de problème. On a des contacts de voisinage, comme tout un chacun, normaux, où il y a certains, on va se dire bonjour, des sourires, il y en a d'autres, on ne va pas se regarder. Mais c'est vrai qu'on a senti que certaines familles avait plutôt un regard méfiant vers nous, voire un regard méchant. Mais jamais personne n'est venu nous voir pour quoi que ce soit.
Yann, 10 jours après ce tag, après cet événement en pleine nuit, on vous sent encore très ému par la situation.
Oui. Beaucoup de colère et de tristesse.
Vous diriez quoi à cet auteur ou ces auteurs, vous, Loïc ?
Que c'est vraiment dommage. Chacun a le droit d'avoir ses opinions, mais clairement, on est très ouvert pour en parler, pour avoir un débat. C'est dommage d'en arriver là, d'aller écrire sur la porte sans avoir le courage de venir nous parler en face. Je trouve que c'est vraiment un manque de courage. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que la discussion aurait été bien plus intéressante.
La France entière a été émue par votre histoire et la sidération de la photo du tag que vous avez posté sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des motifs d'espoir. On va les donner. Yann et Loïc, vous avez reçu aussi des centaines, voire des milliers de messages positifs, de soutien, d'encouragement.
Oui, à commencer par nos proches. Oui, ça fait du bien et ça aide à passer cette épreuve, bien sûr.
Passer une épreuve, mais ça ne suffit pas. Yann, Loïc, je crois que vous avez pris une décision. Vous allez quitter votre résidence, c'est ça, pour vous protéger ?
Oui. Mon travail a été exceptionnel dans la réactivité et m'a proposé de me reloger, ma famille et moi, pour nous protéger.
Merci beaucoup, Yann. Merci beaucoup, Loïc. On le rappelle, le 23 avril, ça fera 10 ans que le mariage pour tous a été adopté à l'Assemblée nationale et que souvent, c'est mieux d'avoir deux papas et deux mamans qui s'aiment que plutôt un papa et une maman qui n'est pas là, ou l'inverse, ou un papa qui commet des violences sur des enfants. Voilà, donc continuez de donner autant d'amour à Rose. Merci d'avoir été mes invités sur RTL dans Focus Dimanche. Yann et Loïc, on vous souhaite plein de bonheur et surtout que cette petite fille puisse grandir avec deux papas aimants.
Merci beaucoup.
Merci à vous deux d'avoir été mes invités sur RTL. À bientôt.
Au revoir, à bientôt.
Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque dimanche sur RTL et je vous en remercie. Vous le savez, Focus Dimanche, c'est votre émission, l'émission des entretiens avec ceux qui font l'actualité tous les dimanches à 13h sur RTL. Et tous les jours, vous retrouvez sur l'application RTL le podcast Focus qui décrypte une information. Tout de suite, c'est Philippe Catherine dans le Bon Dimanche Show avec Bruno Guillon. RTL, il est 14h.